Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
Yes. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all, that's all.
Finaliste du prix de l'Andem 2022, on a le plaisir d'échanger avec Anthony Alvarez, créatif talentueux derrière la marque Blue Marble. Il est à l'image de ses collections, chaleureux, positif et feel good. Un épisode qui invite au voyage et qui vous donnera envie de découvrir son univers. Salut Anthony.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Ça va super.
En merci forme. D'être avec nous.
Merci à vous.
C'est cool de t'avoir.
Grave. On commence toujours par la même petite question d'introduction. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Tu commences où tu veux, tes racines familiales, ton enfance, l'éducation, ce que tu veux, et puis après on déroulera à partir de ça.
Ok, bah je vais commencer au tout début. Ma mère, elle est française, et mon père, il est philippin, espagnol.
Ok.
Ils se sont rencontrés lors de leur premier voyage, enfin le premier voyage de ma mère aux États-Unis, et je suis né là-bas. Donc,
ah
je
ouais?
suis né à New York.
Oh, t'es un Américain!
The States!
Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de mes 7 ans.
Ah,
et après,
comme...
j'ai. Ouais.
Où ça?
À New York.
Ah,
du
ouais,
coup,
ok.
Et j'ai déménagé à Paris à l'âge de. Bah, du coup, l'âge de 7 ans.
Ça doit être un choc quand même, ça. Hein.
Ouais, c'était. Et puis, j'ai gardé contact en fait avec pas mal. Bah, j'ai mon meilleur pote que j'ai rencontré en fait à la maternelle là-bas. Et à l'époque, c'était par lettre, tu vois,
ouais,
c'était dans les années 90. Et, ouais. et du coup,
mignon.
C'est marrant maintenant, tu vois, j'ai des frères plus jeunes. Du coup, c'est une différente façon de communiquer.
Ouais.
Mais j'ai mes meilleurs amis de là-bas. On a gardé bien contact. Et ensuite, après, donc, j'ai fait mon collège et mon lycée à Paris, dans les Yvelines. Et j'ai redéménagé à 17 ans. Aux États-Unis pour faire mes études là-bas.
Ok.
Ah, génial ça.
Ouais, c'était une bonne expérience.
Parce que t'as un passeport US du coup.
Du coup, ouais, j'ai le passeport US.
La green card.
C'est ça.
Ouais, qui te facilite du coup l'entrée sur le territoire, le fait de pouvoir étudier sans avoir besoin d'un visa, toutes ces choses-là.
C'est ça, c'est ça, ouais. Bah, j'avais pas mal de potes justement à l'université qui avaient ces student visa, ils appellent ça, et c'est vrai que ça, c'était plus facile par rapport à ça. Et du coup, j'ai étudié, donc j'ai pas étudié la mode, j'ai étudié l'économie à l'université, qui est un monde vraiment différent.
Le noyau ?
Non, c'était à Cornell. Du coup, donc un peu au milieu de nulle part, au nord de New York.
Grosse université américaine.
Ouais, mais c'était une expérience assez folle, quoi. J'ai là-bas, surtout en tant que Français, là-bas, c'était assez... un peu comme dans les films, quoi. Ce qu'on s'imagine et tout.
Le campus. Les freshmen,
c'est
les
ça.
Bisutages, les trucs.
Bisutages, fraternité, tout ça. Mais c'était une bonne expérience.
Le vrai truc.
Et du coup, après ça, j'ai bossé un peu à New York.
Ouais.
Mais on sort jeune, en fait, d'université là-bas. On sort à 21 ans. Du coup, on est tout jeune.
Bachelor, du coup,
c'est ça. Et ouais, je trouve ça un peu bizarre parce que je sais que j'ai des potes en France et que ça, on finit l'école plus tard, donc là-bas on est un peu livré en nature assez jeune. Et j'ai bossé du coup un an à New York et 2 ans à Londres, du coup dans le même domaine que j'ai étudié, économie,
coup,
c'est
toujours. Ça. Pour t'as voulu faire quoi en fait? C'était quoi déjà, ce qui t'a encouragé à aller faire tes études aux US? Et deux, c'était quoi l'ambition de, tu vois, derrière ce bachelor en économie?
Bah, les US, ça m'a toujours fait rêver, en fait, depuis tout jeune. Plein de choses, que ce soit un peu le monde de l'entertainment là-bas, le sport là-bas. J'ai fait énormément de sport en grandissant. Beaucoup
quoi
de sport.
Comme sport
Beaucoup de sports extrêmes, tous les sports extrêmes, j'adore. Et toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une de mes passions. Et en fait, c'est à travers ça que j'ai eu mes premières expériences avec le vêtement. En fait, j'ai toujours aimé les vêtements. Et aussi, par rapport à ces sports extrêmes, quand j'étais tout jeune, enfin, j'ai commencé très, très, très tôt. Et j'adorais m'habiller pour le skate, pour les surfs, tout ce qu'il y a après le surf aussi, quand on se rejoint.
Des trucs techniques et tout.
Exactement, ouais. Et j'ai toujours aimé cette idée, même des trucs Gore-Tex ou des trucs qui peuvent te protéger contre la pluie, tout ça. Et j'ai toujours aimé ça, mais en fait, j'ai décidé, quand j'étais jeune à l'époque aussi, à 17 ans, de partir aux États-Unis. C'est un peu un cursus général, en fait. C'était économie, mais on étudie un peu tout.
Ouais, t'as pas besoin de te spécialiser tout de suite, c'est
du
vrai.
Du coup, ils ont demandé un truc, j'ai mis ça et donc, du coup, c'était une très bonne expérience parce qu'on est assez jeune là-bas et t'apprends à grandir assez vite aussi. Et après, donc, quand j'ai déménagé à Londres, j'ai fait 2 ans là-bas et un peu du jour au lendemain, j'ai essayé de tout plaquer en fait parce que, enfin, depuis le début, je ne m'épanouissais pas, mais je ne voulais pas abandonner en fait. Donc, je me dis, je voulais continuer à essayer, creuser dans un autre pays, creuser.
Parce qu'à Londres, tu travaillais et t'étudiais ou juste.
Juste travailler.
Juste travailler. Hein.
Mais c'était quoi les premiers jobs du coup ?
Du coup, c'était dans la finance. Ouais. Du coup, et c'était vraiment un monde qui n'était pas pour moi. C'était
c'est très particulier.
C'est très particulier. Après, pour des gens, ça peut être, mais pour moi, c'était.
Y en a dont c'est la passion, hein, carrément.
Ouais, c'est hyper intéressant. Mmh.
Et en fait, j'arrivais pas à m'exprimer, en fait, et je me sentais vraiment restreint. Je me suis dit, voilà, je me suis dit au bout de 3 ans que c'était fallait tout changer, quoi, parce que ça n'allait pas. Du coup, j'ai essayé d'arrêter. Et de faire un voyage aux Philippines. Ça faisait longtemps que j'y ai pas été.
Plus jeune, t'y allais quand même assez souvent. T'es resté proche de tes racines philippines.
Bah, à travers à la maison beaucoup. Mm-hmm. Du coup, parce que à travers ma grand-mère paternelle et mon père, il y avait toujours cette culture très présente. Et ma mère aussi qui adore les Philippines et du coup. Que ce soit la nourriture qu'on mangeait, les relations familiales, etc. C'était toujours un bon mix entre la France et les Philippines. J'y suis allé pas tous les ans, mais c'était important pour moi de reconnecter aussi avec là-bas. Donc, en 2016, j'y suis allé et j'ai pris quelques semaines pour
réfléchir, te poser.
C'est ça, pour me poser, pour
tu
réfléchir.
Parles la
langue ? Je comprends. Okay. En fait, c'est assez proche de l'espagnol, mais je parle pas couramment. Okay. Le tagalog, du coup.
Ok.
C'est un
petit voyage limite initiatique, quoi.
C'est ça, en fait. J'ai rencontré pas mal de gens là-bas aussi. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi. Mmh. Et me donner cette envie de revenir à Paris aussi. C'était important parce que ça faisait longtemps là, que je n'étais plus là. J'ai décidé de revenir ici, donc en 2016, et de lancer avec des potes un premier projet qui s'appelait One Culture, qui s'est bien passé.
C'était quoi comme...
C'était du coup des vêtements qu'on a lancés. C'était plus streetwear. Streetwear, sportswear.
Tu continues le sport toute cette période-là?
Toujours. Je suis pas bien si je fais pas de sport. Okay. Après, c'est difficile à Paris de faire des sports extrêmes. Ouais. Mais on essaye le plus possible. Et quand je peux descendre un peu dans le sud de la France, je fais beaucoup de surf. Et du coup, j'ai toujours continué toute ma vie le sport. J'adore ça et ça permet vraiment de m'évader. Je trouve que quand tu connectes avec la nature, il n'y a rien de plus spécial, en fait. Tu oublies tout. Mmh. Et surtout, quand tu as peur d'avoir des grosses chutes ou quoi que ce soit, tu penses à rien.
T'es focus, ouais.
Sauf à la survie. Et je trouve ça, ce moment vraiment incroyable, en fait. Et du coup, j'essaie de faire ça le plus souvent possible. Et du coup, je suis revenu ici en 2016. One Culture, ça a duré 2 ans. j'ai beaucoup appris à travers ce projet. Mm-hmm. C'était mes premières expériences aussi dans la mode.
Parce que là, tu lances avec plusieurs personnes, c'est
ça? Oui, on est plusieurs, exactement.
Et toi, tu fais quoi à l'intérieur de ce...
On avait tous plusieurs chapeaux, en fait, pour One Culture, et c'était vraiment bien, c'était avec des bons amis. Et à la fin, voilà, on a appris tout, quoi, les usines, les premiers patrons... mais au bout de 2 ans, je me suis dit que ça allait pas vraiment dans la direction que je voulais, et je me suis senti prêt, en fait, pour me lancer avec Blue Marble en 2019. Et c'est vrai que c'était juste avant la pandémie.
C'est ouf le nombre de personnes qui ont lancé leur truc juste avant la pandémie.
On dirait qu'il y avait un. C'est vrai que j'ai entendu parler qu'il y avait beaucoup de. D'autres marques aussi qui ont été créées à ce moment-là. Ouais. Et...
Mais j'ai l'impression que ça a été bénéfique, en vrai.
Je pense, parce qu'en fait, dès le début, en fait, t'as des challenges. Dès le début, à s'adapter, tu sais pas à quoi ça va ressembler dans quelques semaines. Ouais. Même la façon de montrer ta collection, c'est différent. Donc je pense qu'on s'est... Et puis d'un côté aussi...
Ça t'enlève l'effervescence un peu aussi. Ça te permet de te poser, d'avancer plus... Peut-être pas lentement, mais en tout cas de manière plus posée, je pense.
Totalement. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, tout le monde avait les mêmes cartes, en fait, parce que tu ne pouvais pas faire des gros shows, quoi que ce soit. Tout le monde devait faire des vidéos.
Fallait être créatif.
Et du coup, j'ai adoré. Voilà, on a fait 2 vidéos, et ces 2 vidéos, c'était des super expériences.
Blue Marble, pour revenir au début de Blue Marble, l'idée, déjà, pourquoi Blue Marble?
En fait, c'est le nom qui a été donné à la première photo prise de la Terre dans son entièreté dans les années 70. Et pour moi, c'est ce point de vue qui m'a beaucoup inspiré, parce que pour moi, le multiculturalisme, le fait de célébrer un peu toutes nos individualités, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. À travers le sport extrême, j'ai pu voyager aussi pas mal, rencontrer plein de gens différents. Et pour moi, c'était très inspirant, ce nom, parce que c'était vraiment les valeurs que je voulais refléter dans la marque.
C'est hyper cool comme idée.
Ok, donc
comme
tu
idée.
La fondes avec Eddy, c'est ça?
Du coup, avec Eddy, on a commencé ensemble avec Blue Marble, et en 2000, 2019. Et
qui fait
voilà.
Quoi?
Du coup, Eddy, il est design directeur. Pour la marque, et il fait aussi notre stylisme. Et pareil que chez One Culture, on a tous plusieurs chapeaux, donc on touche un peu tout à tout. Du coup, moi, je suis creative director de la marque, et voilà.
Cool. Et c'est les valeurs quand tu décides de lancer Blue Marble. Tu parlais de multiculturalisme, tout ça. C'est comment dire, c'est un mélange de tout ce que tu as fait jusque-là. Comment tu as envie de projeter la marque à partir de ce point de départ?
Pour moi, c'est marrant parce qu'on revient, c'est vrai qu'à cette période d'un peu de confinement, de lancement de la marque, mais ça correspondait tellement, en fait, au message que je voulais véhiculer, d'évasion, en fait, aussi. Que à travers ces collections,
parce que c'est coloré,
c'est aussi des, en fait, toutes les collections commencent avec des rêves que j'ai, et j'essaie un peu de lier ces rêves à cette idée un peu d'escapade et de voyage. Je me plonge aussi beaucoup dans mes souvenirs et de voyages que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de les faire. Et ce sentiment un peu de, à travers ces collections et ces voyages, de prendre des souvenirs un peu partout. J'adore cette idée, en fait, et c'est vrai qu'à travers les couleurs, ça amène beaucoup d'optimisme. Je pense qu'il est très important pour moi, chaque collection, cette positivité, ce sourire, en fait, que j'ai en voyant les collections, quoi.
Ah, c'est vrai que c'est très coloré, c'est très feel good comme marque.
Ouais.
Ça, c'est un pari réussi.
Et comment vous appelez, c'est quoi déjà les premiers retours sur la toute première collection?
Ils étaient vraiment, il y a eu des super retours dès le début. Donc la première collection, c'était du coup Spring Summer 20. Mm-hmm. Il y a eu des très bons retours dès le début, donc c'était vraiment très encourageant. Et c'est vraiment avec Spring Summer 21. Mmh. Du coup, là, on avait bossé ensemble.
Ensemble, c'était très cool.
Super cool. Et c'est un peu parti de là, en fait, avec Selfridges qui a acheté toute la collection. Ils nous ont envoyé un message en août en disant qu'ils avaient vu la vidéo, qu'ils avaient surkiffé et qu'ils voulaient commander toute la collection. Donc, on n'était pas vraiment prêts, mais c'était une très, très belle surprise d'avoir ça. Et ça a un peu lancé... tout lancé en fait suite à ça quoi. Après ça c'est
un gros vecteur, quoi.
Ouais, c'était
parce
c'était...
que justement toi comment t'as, parce que tu t'expliquais que t'as un côté business de par ton parcours, mais t'as pas un côté mode, genre tout ça tu le découvres au fur et à mesure. Comment t'appréhendes la chose?
Beaucoup, et je pense que l'équipe elle est très jeune aussi, donc on apprend encore tous les jours en fait. Mais
parce que c'est un challenge aussi, je veux dire,
c'est un gros challenge, parce que qu'on ait fait d'école de mode ou pas, il y a des challenges qui sont là en tant que jeune marque. Après j'ai beaucoup appris avec One Culture aussi, parce qu'on a fait des erreurs, on a eu des challenges.
C'est comme ça qu'on apprend,
c'est comme ça qu'on apprend quoi. C'est aussi les premiers contacts avec les usines, c'est jamais facile au début, ouais, quand tu dois aller convaincre les usines de faire ta production. Mais du coup, on a toujours beaucoup de challenges, mais c'est ça aussi qui fait la beauté du projet, quoi. C'est
l'aventure.
C'est l'aventure. Et ça m'a toujours passionné, en plus. Donc,
Parce que moi, je me rappelle quand on a bossé ensemble, justement, quand j'étais arrivé, je me dis, ouais, c'est hyper carré, c'était hyper organisé déjà et tout. Genre, ça avait l'air d'être une marque qui avait déjà plusieurs années, tu vois, par rapport à où vous en étiez dans votre parcours de marque. Et ça m'avait vachement choqué, quoi. Je t'ai dit, ouais, ils savent ce qu'ils font. Il y a des personnes pour chaque poste. Il y a une certaine rigueur qu'il n'y a pas tout le temps dans toutes les jeunes marques.
C'est vrai, et on essaye. Alors c'est pas toujours carré, mais on essaye le plus possible, parce que c'est important pour pouvoir continuer, pour pouvoir se projeter. C'est quelque chose qu'on essaie de faire au mieux, quoi.
Ok. Et on parlait tout à l'heure de la période Covid.
Ouais, t'as une question particulière.
Non, je me disais justement comment ça a été pour vous, parce que ça a été dur pour plein de marques et.
C'est vrai que ça n'a pas été facile du tout. Il y a eu une grosse période d'incertitude au tout début. Ce qui m'a pas mal aidé, c'est que je fais partie de ce programme avec la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Et on avait fait un Zoom, je me rappelle, au tout début avec plein d'autres jeunes marques. Et tout le monde avait dit, voilà, voici mes problèmes actuels, voici ça. Et tout le monde avait les mêmes problèmes, en fait. Donc, du coup, c'était rassurant. Il y a eu beaucoup d'entraide à travers ce programme. Et ça, je suis vraiment reconnaissant, parce qu'on avait fait un showroom avec eux aussi, qui s'appelait Sphère. Ouais. Il y a eu beaucoup de soutien de la fédération. Et beaucoup aussi d'échanges avec des experts aussi. Et ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a eu des très bons conseils aussi. Maintenant, après, c'était pas facile, mais nous, c'était même limite plus difficile, pas la première saison. On n'a pas eu trop de problèmes avec nos usines, mais c'était il y a deux saisons en arrière, donc un an après, où il y a eu quelques retards de production qu'il fallait gérer. Parce que c'est vrai qu'on a ces wholesalers qui nous font confiance.
Ouais, ça, c'est un gros stress.
C'est ça. Mais ce qui est bien, après on a eu beaucoup de chance, c'est que les wholesalers nous ont vraiment soutenus à travers cette période, et même on a grandi chaque saison, même à travers le Covid, par rapport un peu à la dynamique de la marque. Donc ça, c'était vraiment, on a eu beaucoup de chance.
Ok. Vous êtes combien aujourd'hui dans vos équipes?
Là, en tout, on est 4.
4, ok. 4, ouais. Et comment tu positionnes la marque sur la scène internationale? Vous êtes plutôt une marque française, plutôt marque internationale, européenne? Comment vous vous développez?
Bah écoute, ça a plutôt commencé à l'international, ouais, que sur la scène française, je dirais. Je trouve que voilà, à l'international, ils prennent un peu plus de risques aussi par rapport à, enfin, à Bull Marble. Et ça a plutôt commencé sur la scène internationale, même des gens qui nous portent. Et ça
fait les acheteurs.
C'est ça. Et ça fait vraiment plaisir de voir que la marque voyage aussi, en fait, parce que ça fait partie des valeurs de la marque. Et donc, mais je dirais, ouais, ça a plus commencé à l'international qu'en France.
Avec le recul que tu as là, c'est quoi pour toi les gros milestones de la marque? Des moments qui ont été des tournants, tu vois, ou en tout cas qui t'ont permis de mettre un coup d'accélérateur, peut-être?
Bah, je pense que le tout début, c'était un milestone de pouvoir lancer ça en 2019. Ensuite, je pense que la collection Spring-Summer 21, c'était un gros milestone pour moi, parce que c'est vraiment la collection où je sens qu'en fait, chaque saison, il y a un peu un entonnoir avec l'ADN, où j'arrive à la préciser de plus en plus. Et je sens qu'avec cette collection-là, j'étais vraiment content d'avoir pu préciser encore plus l'ADN de la marque à travers cette vidéo qu'on avait fait avec ces quatre garçons qui s'évadaient un peu pendant la pandémie, et je pense que c'était vraiment important, même pour moi, c'était une collection super super importante. Après, il y a eu notre premier défilé.
Ouais, j'aimerais que tu me parles de ça. D'où vient l'idée de faire le défilé et comment ça s'est passé?
L'idée de faire le...
parce que c'est quand même un gros gros truc, c'est pour une marque de faire un défilé à Paris où t'as beaucoup de contraintes financières avec la fédération. Enfin, c'est pas, les gens s'imaginent pas, mais c'est pas, tu fais juste défiler les gens, c'est quelque chose de très très compliqué. Donc ça c'est un challenge, mais ça peut être aussi coupe-gorge, quoi, pour une marque. Ça peut être c'est à double tranchant.
C'est clair, et c'est un gros gros challenge. C'est pas facile à mettre en œuvre du tout. C'est surtout quand tu commences, parce que t'as aucune référence en fait de tout, quoi, que ce soit la production qui est très galère, donc que ce soit le casting, que ce soit tout. Et mais pour moi, je voulais vraiment qu'on se challenge à pouvoir le faire, parce que c'est tellement important pour moi que les vêtements aussi soient vus, qu'il y ait cet échange aussi, que ce soit vraiment immersif entre la musique, le choix des mannequins, les vêtements. Je trouve que la marque, c'est important à ce moment-là qu'elle soit vue aussi, et qu'il y ait cette énergie qui ressorte. Aussi pour que notre communauté puisse se rejoindre aussi à travers ce moment. C'était vraiment important, parce qu'on est en train de... Bah c'est, on a encore une jeune marque, mais on a une communauté qui nous soutient et qui est vraiment super, et de pouvoir voir tout le monde aussi qui assistait au défilé, habillé aussi beaucoup en Blue Marble aussi. Donc c'était super cool que tout le monde se voit, qu'on ressente en fait cette énergie. C'était pour moi, je suis vraiment hyper content, et j'en ai besoin de ressentir ça, et je trouve que vouloir continuer à faire ça.
Donc prochaine saison, sûrement encore un show.
Alors c'est vrai qu'on sait jamais avec tout ce qui se passe, mais là,
en tout cas dans l'envie, quoi.
Dans l'envie, ouais, carrément de pouvoir faire, ouais, un autre show en juin.
Ok, les retours de la presse, c'était, enfin, de la presse et de tout le monde, c'était comment après ce show?
Il y a eu vraiment des super retours après ce show en juin, et le deuxième qu'on a fait du coup en janvier. C'était cool, et pareil aussi presse internationale. Donc c'est vraiment encourageant, parce qu'on est vraiment une jeune équipe. Il y a beaucoup de challenges, donc quand on voit en fait les bons retours, ça c'est juste
c'est
trop encourageant, quoi.
Bien sûr.
Et ça nous donne l'énergie en fait qu'on a besoin, quoi.
Ouais, bah ouais, donc ça c'est un deuxième gros milestone. T'en as d'autres comme ça en tête, des choses qui t'ont...
Après, il y a aussi la nomination pour le LVMH Prize, qui était vraiment un gros gros milestone pour nous, quoi. C'était...
Ça se passe comment, ça? C'est quelqu'un qui t'appelle, tu reçois
un
mail?
C'était un appel du coup de Fabrice Pénaud du LVMH Prize. Et en fait, j'y crois pas vraiment en fait quand ça se passe, parce que c'est incroyable. C'est vraiment, tellement content aussi pour l'équipe, pour tout le travail, parce que
C'est une forme de consécration. Hein,
c'est une belle consécration. Identifié. Et c'était une superbe expérience aussi de pouvoir rencontrer les autres marques aussi. Il y avait vraiment une très bonne énergie.
Ouais.
Pas du tout un esprit de compétition, mais en fait, tout le monde, pareil, qui parle de ses problèmes, qui parle de ses accomplissements, etc. Donc, c'était très, très cool.
Ouais, c'est connu pour être plutôt bienveillant comme prix.
Très bienveillant.
Comme prix.
Super bienveillant et aussi, voilà, pas trop strict, c'est assez chill aussi, donc c'était cool. Et
même s'il y a Anna Wintour qui se balade,
aussi, ouais. C'est chill. Mais en fait, il y a tellement de personnes voilà, qui se baladent que t'as pas le temps de réaliser, en fait. Et,
ouais.
Et limite, on en a un coup de coude. Et j'avais, du coup, mon voisin Amesh, qui a sa marque aussi, ouais, du Sri Lanka. Et du coup, on se donnait des petits coups de coude pour se dire « Ah, il y a un tel qui est là, un tel qui est là ». Donc, c'était vraiment une expérience de ouf, quoi. Et de pouvoir rencontrer toutes ces personnes, c'était incroyable.
Donc, c'est quoi un petit peu la chronologie pour donner un peu le regard d'insider sur ce prix-là? Comment tu te prépares? C'est quoi les exigences?
Du coup, en fait, tu commences avec une candidature que tu dois soumettre jusqu'à mi-janvier. Et du coup, tu bosses pas mal la candidature avant. Et après, ils t'appellent pour te sélectionner. Et là, on devait faire une vidéo, justement, qui était assez challenging parce que c'est une vidéo sur ton processus créatif. Donc, et je pense que j'en parlais même avec les autres marques. Personne n'était trop habitué de parler de son processus créatif, qui est assez personnel aussi.
Mmh.
Et il fallait le faire, en fait, avec sa webcam de caméra en montrant ton bureau et en te filmant. Donc, c'était assez challenging de faire ça, mais je trouve que c'était super intéressant d'avoir des dossiers avec tes différentes collections, tes mood boards, comment tout commence en fait. Parce que c'était toujours une session qui était un peu hybride entre digital et physique, donc ils voulaient offrir un peu cette vidéo aux experts qui ne pouvaient pas venir et être sur place.
D'accord.
Et après on est donc du coup il y a le prix et après c'est un peu dur de réaliser mais tout se déroule très rapidement en deux jours quoi. Tout
va super
vite.
Ouais.
C'est sur deux jours ouais. Et
chacun son petit boost avec sa collection.
Exactement, c'est ça.
Et tous les professionnels viennent regarder et poser des petites questions.
C'est ça, et en fait, c'est un peu un roulement entre les postes déj. T'as pas beaucoup de. En fait, tu veux pas trop rater parce qu'en fait, il n'y a pas d'horaire vraiment. Donc tout le monde passe au fur et à mesure. Mais c'était vraiment une superbe expérience inoubliable.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Hein.
Vraiment.
Vraiment, c'est
clair.
Ouais, ouais.
Non, c'était pour moi vraiment tellement content parce que je m'y attendais pas du tout. Et donc ça fait énormément plaisir.
Trop cool.
Je voulais rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure par rapport à vos consommateurs, enfin en règle générale. C'est vrai que j'ai l'impression que, je prends l'exemple aussi de Casablanca, toutes ces marques qui ont vraiment un ADN très tranché, colorful ou pas colorful, hein, quel que soit l'univers, françaises, elles ont besoin de l'étranger pour donner de la légitimité. Je comprends pas pourquoi c'est jamais de notre propre pays qu'on se donne de la force. Et c'est souvent les succès que je vois, ça vient toujours d'une force qui vient de l'étranger. Quoi. On est plus reconnu à l'étranger que dans notre propre pays. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est vrai, et surtout avec certains univers aussi en fait, qui peuvent résonner. Au début plus à l'étranger avec des ADN fortes comme tu dis
mais après on adore hein. Après on
c'est
dit
vrai.
Ouais c'est le français une fois que ça cartonne
c'est ça.
On revient en roi à la maison mais dans l'impulsion de départ je trouve les français ils ont du mal à soutenir les jeunes marques qui commencent françaises
et ça c'est vrai même on l'a vu avec même des artistes qui nous portaient il y avait beaucoup d'artistes internationaux US qui ont commencé à nous porter ça apporte un bon soutien mais c'est vrai que ça a tendance à plus commencer enfin en tout cas pour nous ça a plus commencé voilà à l'étranger et puis maintenant ça c'est aussi important pour moi que ça se développe bien en France
bien sûr,
aussi
ouais,
parce que c'est et ça commence bien.
L'objectif c'est d'avoir une boutique déjà ou c'est quelque chose auquel vous pensez ou vous restez sur votre wholesale et internet business model?
Pour l'instant, je pense que c'est vraiment Internet et le Rollcell. Après, on a un petit studio à Paris où on accueille
des clients
ouais, que ce soit sur Insta, qui nous envoient des DM ou sur le site Internet pour venir essayer les pièces. Mais le but, c'est de rester dans cette configuration-là. Et on est encore très jeune et je pense que c'est déjà pas mal à gérer, quoi.
Ouais, la boutique physique, c'est une décharge de ouf. Hein. Surtout une boutique parisienne, c'est très, très, très coûteux quoi, en termes d'infrastructure et tout.
Hyper coûteux et il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt et je sais que là, c'est pas dans...
C'est pas le moment.
Non, ouais.
Bon, bah écoute, c'est malin comme ça. Je veux bien que tu reviennes sur ton processus créatif, du coup. Ouais. T'as déjà taffé la question, si tu veux nous le partager aussi, on est hyper, hyper chaud.
Carrément. Bah, moi, ça commence vraiment chaque collection avec des rêves d'évasion, en fait. Je commence comme ça et je me pose un peu après le défilé. Du coup, voilà, on a eu le dernier défilé en janvier et j'essaie de réfléchir à où est-ce que je veux aller, avec qui, et j'imagine un peu cet itinéraire. Et j'aime bien en fait partir du point d'arrivée en fait de la dernière collection. Par exemple, la dernière collection Fall Winter 22, c'était l'idée de en fait une bande de potes qui partait des Philippines. Pour traverser le Pacifique. Et c'est toujours un rêve en fait, que j'avais de faire ces longues traversées. En fait, c'était au bord de... C'était sur des voiles Vinta, qui sont des voiles traditionnelles philippines. Et donc, pour moi, j'imagine en fait, s'arrêter dans différentes îles, ramener des petits souvenirs, échanger ensemble. Et j'aime bien aussi réfléchir à... cette bande de potes et comment chacun se caractérise aussi par rapport à ça. Et après, je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Du coup, toute l'année, en fait, et je garde tout sur mon portable. Et après, je fais des recherches par rapport à cet itinéraire que j'ai en tête. Et ensuite, je fais des collages. Des premiers styling avec des maquettes, des vintage aussi. Je collectionne beaucoup de vintage. Et après, c'est le choix des tissus qui est vraiment important pour moi. Et ça m'inspire aussi pour créer des pièces. Et voilà quoi. Okay. Voilà. Et puis après, c'est la machine un peu lancée, mais c'est le début qui est toujours que j'adore quoi.
Ouais, donc c'est un vrai guide de voyage quoi.
C'est ça, c'est un peu ça, ouais.
J'aime ce délire, moi. Ça me projette.
Ouais. Non, c'est super fun, c'est super fun de réfléchir à ça et voilà, et je trouve que vraiment c'est un retour que j'adore en fait quand des personnes viennent voir la collection, de dire ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser et pas que le voyage, on va dire, de bouger dans le pays, mais ça peut être un voyage dans le temps. Moi, j'adore les années aussi 60, un peu la culture hippie, les années 90 aussi. Et en fait, quand des personnes voient les pièces, ils disent « Ah, ça me rappelle soit ce moment-là sur les MTV Awards ou ce moment-là. » Et je trouve ça vraiment super cool que chacun interprète sa pièce différemment et ça apporte des souvenirs...
Ah ouais, t'es quelqu'un de nostalgique toi ou pas?
Je dirais que je suis assez assez nostalgique, mais sans, mais aussi.
Mais pas dans le c'était mieux avant encore.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Mais j'aime. Ah ouais, non, pas le c'était mieux.
Non.
Impossible. Bon, bah cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous parler de pour le futur de la marque?
Là, on est en train de travailler sur des accessoires, donc je suis assez excité pour ça.
Sacs, chaussures, on peut dire ou pas?
Ouais, ça va être des premières sandales qui vont arriver pour cet été. Et j'ai très hâte, en fait, c'est inspiré un peu de sandales de surf.
Ouais, j'allais te dire, est-ce que c'est inspiration Philippine surf, plage?
Ouais, c'est ça, c'était pour cette collection-là et... Du coup, j'ai hâte de les recevoir bientôt et on va communiquer dessus pour cet été. Vraiment, j'ai trop trop hâte. Et puis, on a aussi des porte-cartes et quelques autres accessoires pour la nouvelle collection du coup.
Ok, trop stylé.
Justement, tu parlais de communication. Comment vous faites la communication depuis le départ de la marque ?
C'est vraiment moi à travers l'Insta de Blue Marble. C'est assez naturel, en fait.
Comment vous êtes fait connaître, en fait ? C'est quoi le... Parce que j'ai l'impression que c'est une communauté qui est très organique, en fait. Qui s'est créée sur long terme et qui est... Tu vois, je vous vois pas dans des trucs pushy. Tu vois, j'ai vraiment cette impression. Ouais.
C'était vraiment organique. Et ça, j'ai vraiment aimé au début, en fait. Quand j'ai créé le compte... on a eu pas mal de potes à moi qui nous ont soutenus dès le début et c'est un peu c'est pris de là quoi. Ouais, c'est vraiment important et après c'est aussi le bon côté des réseaux du coup c'est que ça peut se diffuser vite et
c'est un accélérateur,
c'était vraiment un gros accélérateur et jusqu'à aujourd'hui c'est notre meilleur outil de communication quoi. Et même pour parler avec notre communauté, c'est super parce que maintenant avec les DM, on peut s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, c'est vraiment, je trouve, c'est un super outil quoi pour se développer.
Et c'est toi qui es derrière tout ça, c'est toi qui gères tout ça,
c'est
qui répond aux DM et tout.
C'est ça. C'est j'ai le compte sur une partie. Ça prend pas mal de temps. Ouais. C'est vrai que c'est dur et j'ai pas de genre de calendrier précis avec des posts et quoi que ce soit, donc. C'est vraiment quand...
Au jour le jour, quoi.
Un peu au jour le jour. C'est vrai que c'est un mix de shoots qu'on fait, de parutions qu'on a aussi. Mais ça se fait vraiment organiquement, quoi.
Ouais. J'ai une question autour de toi et de la marque. Est-ce que t'es un créatif qui a envie d'incarner la marque ? Ou est-ce que tu tiens à ce que la marque vive pour elle-même ? Je sais pas si ma question est claire, tu vois, mais t'as des marques où les designers sont très 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 présents et on identifie la marque pour le designer quelque part.
Ah, je pense que c'est une très bonne question. C'est...
Je te remercie.
Mais, mais c'est vrai, je pense que c'est un mix parce que j'adore porter mes pièces, vraiment. Mais c'est aussi de voir les pièces portées sur d'autres gens et même quand je crée il y a une partie de pièces que je veux porter mais il y a une partie de pièces aussi que j'oserais pas spécialement porter mais que je voudrais voir porter, du coup c'est un mix mais ouais c'est pas trop l'un ou l'autre quoi, c'est
un
équilibre entre les deux. Parce que je porterai pas non plus toutes les pièces, c'est les pièces que je voudrais que je voudrais voir sur des gens quoi, surtout pour toutes les dernières collections dans le show et...
Ouais. Je reviens un petit peu sur le commencement et sur comment t'as trouvé ta voix. Comment est-ce que t'as intégré la communauté mode? Est-ce que dans ta famille il y a des créatifs? Comment ça a été perçu? Est-ce que ça a été encouragé? Et comment t'entres dans ce milieu là concrètement, tu vois?
Dans ma famille, c'est pas trop le milieu créatif, même si ma mère, en fait, elle a toujours aimé
le vêtement,
et c'est même elle qui m'habillait tôt et qui m'a un peu initié à ça. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'adore lui demander des conseils, parce que comme elle est pas dans le game, c'est ça, et je trouve que, et puis elle dit toujours ce qu'elle pense, donc j'adore
Allez,
en fait,
maman, elle laisse rien passer.
C'est ça, et donc
à
chaque fois que j'hésite pour quelque chose en fait j'adore lui demander et... mais comment je suis rentré dans le milieu, ben un peu j'ai un de mes associés qui est dans la musique avec qui on a rencontré un peu au début pas mal de personnes et ça s'est un peu fait aussi avec l'Instagram du coup aussi, donc avec pas mal de gens qui ont reach out que j'ai pu rencontrer comme ça que ça a commencé.
Très organique tout ça. Hein.
Organique parce que je viens pas de ce milieu, enfin j'ai pas vraiment travaillé dedans avant. Après, je trouve que ça nous a pas mal aidé d'être à Paris aussi, parce qu'il y a...
C'est un petit microcosme à Paris, on se rend pas compte, mais c'est très
c'est
très
ça.
Petit.
Et d'être là pour les Fashion Week, d'être même pour rencontrer les gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, ou une partie du temps.
Ouais.
C'est ça. Et donc, j'ai rencontré pas mal de gens à travers ça.
Ok.
Ouais, parce que moi, je vois... Enfin, il y a Dan qui m'avait parlé... Dan Sablon, le styliste qui m'avait beaucoup parlé de vous. Enfin, vous avez vite été adopté par la communauté, quoi.
Dan, qui est un très bon ami à Eddie, en fait, que j'ai rencontré Dan à travers Eddie. Et, Et c'est vrai que ça a bien, bah, ça a bien résonné, bien connecté. Et
après, mais je pense que quand t'es genuine, en fait, tu vois, bah, les gens, ils le sentent. Je trouve qu'il n'y a pas de secret à ça. Tu peux pas forcer les choses, tu vois.
Non, c'est sûr. C'est sûr, et je pense que moi, je suis aussi assez curieux. J'adore rencontrer les gens, et puis j'essaie d'inviter. Ouais, on a un petit espace dans le studio où des fois, je prends des cafés et tout. Enfin, je trouve que c'est intéressant pour les gens de ressentir un peu la vibe aussi au sein du studio. Donc, y a plein de gens qui passent dans la semaine.
Trop bien.
Un lieu de vie.
Ouais, ouais, c'est un peu ça. Cool. Ouais.
Est-ce que tu as envie d'ajouter un petit truc, une actu peut-être ?
L'actu, bah,
les access
que j'ai hâte de pouvoir communiquer dessus, ça va arriver normalement mi-mai, du coup qu'on les aura, et hâte que tout le monde puisse les porter.
Trop bien.
Cool, on finit l'interview, on finit le podcast avec nos petites questions gimmick. Tu réponds du tac au tac si tu peux. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Le meilleur conseil, je pense que c'est d'être, de pas avoir peur d'être audacieux et de prendre des risques. Mm. Je pense que c'est, moi en tout cas, c'est un conseil que j'ai suivi en fait depuis le début. C'est pas avoir peur de prendre des décisions qui peuvent, comme j'ai fait, changer de complètement le milieu. Ouais. Ou, même d'être audacieux à sa façon de penser, je pense, c'est important.
Ok. Est-ce que tu as un talent caché ?
Je dirais que je me débrouille pas trop mal en cuisine. Je dirais que ça serait pas mal en cuisine. J'aime beaucoup manger en cuisine.
T'as un petit plat signature et un truc ?
J'aime beaucoup la nourriture philippine. Du coup, je fais pas mal de plats un peu traditionnels philippins. La soupe sénégane, adobo. Il n'y a pas trop de restaurants philippins à Paris. Il y en a
j'allais
un.
Te demander.
Ouais, moi, ça ne me dit rien du tout, cette cuisine. Je connais
c'est
pas.
C'est super
du
bon.
Tout, du tout, du tout.
C'est bah, pas mal base de riz. Ouais. Et c'est un peu un mix de plein de nourritures asiatiques. J'aime pas mal cuisiner ça, ouais.
Trop bien.
Ok, bah du coup, est-ce que tu as un petit guilty pleasure ?
Beaucoup au niveau nourriture. Je dirais les beignets corses de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est corse et du coup, elle fait des beignets un peu au fromage.
C'est un vrai mélange, tout ça.
Incroyable,
ah ouais.
Incroyable.
Ok. Est-ce qu'il y a un compte Insta que tu veux pousser un peu ? À part celui de Blue Marble, évidemment, qu'on invite tout le monde à aller checker.
Je pense que j'aime beaucoup la décoration d'intérieur. Et
okay.
Il y a un compte que j'adore qui s'appelle The Millie Vintage. Et j'adore regarder ce qu'il propose et je trouve que ça permet aussi pas mal de t'évader à travers ce compte. Et je recommanderais de le checker.
Trop cool.
Trop cool. Est-ce qu'il y a une tendance mode que tu n'as jamais comprise ? Tu dis, ça je porterai jamais ou ça, qu'est-ce que c'est que ça ?
Pas que je comprends pas, mais en tout cas que je porterai pas, c'est des pantalons très serrés, slim, ça a jamais été mon truc. Ouais. C'est toujours porter des pantalons assez larges, ouais.
Être à l'aise.
Être à l'aise, bah, je pense que ça part pas mal du que tu sois en skate ou en sport. J'ai toujours réflexe d'être à l'aise dans mes vêtements, en fait. Et je pense que ouais, je porterai pas de pantalons serrés, ouais.
Mais c'est pour quand la collab avec un Arc'teryx ou un...
Ça serait ouf, ça serait un rêve. Ça serait un rêve et... j'espère, ouais. Ça pourrait être super, super.
Si ça passe par là. Grave. Tu sais quoi, j'ajoute une question spéciale pour toi. C'est quoi ton voyage de rêve ?
Je pense que le voyage, ça dépend aussi de beaucoup avec des personnes avec qui tu pars. Donc ça serait avec des très bons potes, en fait, de se rejoindre. Parce que j'ai pas mal de potes un peu qui...
Quatre coins du monde,
qui sont un peu... qui ont voyagé. Et du coup, ça serait tous se retrouver. Avec l'été en tête, ça serait... Ça, enfin, je suis pas allé depuis longtemps. Ça serait retrouver aux Philippines et de faire découvrir un peu cet endroit. J'adore faire découvrir les endroits, un peu, mes potes et... C'est cette petite île qui s'appelle Siargao, qui est un regroupement de surfeurs. Il y a la jungle aussi là-bas. Il y a des fêtes dans la jungle qui sont assez ouf. Et ça serait de retourner là-bas, je trouve, maintenant. Ouais.
Tiens, mais...
On prend notre billet, nous.
Grave. Merci beaucoup, Anthony, pour ton temps. C'était charmant.
Merci à vous.